France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's on in the house.
Ali, I'm Radio Rosana Piparis.
Produce get in the radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Le président américain essaie de calmer le jeu sur l'immigration. Il a promis un peu de desserrer l'étau sur Minneapolis après les deux morts de ces dernières semaines. Mais vous allez entendre que les architectes de la politique de Trump, eux, n'ont pas fait bouger leur discours d'un iota. Pourquoi le Made in Europe est-il beaucoup moins évident qu'il en a l'air? Louise Baudet va nous le dire en remettant le monde à l'endroit. Le reportage est entre la Birmanie et la Thaïlande. Ce soir, premier volet d'un reportage en deux parties avec des enfants birmans qui sont scolarisés dans une sorte de zone grise. Ni dans les écoles thaïlandaises, ni dans les camps de réfugiés.
On s'occupe surtout des migrants sans papier. On suit le programme scolaire birman. Les élèves apprennent le birman, l'anglais et un peu de thaï.
Un reportage à découvrir ensemble autour de 18h41. Sous les radars, Virginie Pironon a trouvé la Chine qui se passionne pour un cheval en peluche aux yeux tristes. Et dans la BO du Monde, Cyril Sauvageau a mis du métal ukrainien. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
I want to make it clear. ICE and CBP officers.
Lui, c'est Tom Homan, le monsieur frontière de Donald Trump. C'était jeudi à Minneapolis. Il a donné le sentiment de calmer le jeu. Il dit « Nous allons veiller à mener des opérations ciblées. Et écoutez, nous n'abandonnons en aucun cas notre mission. Nous la menons simplement de manière plus intelligente. » Le président Trump a communiqué après d'un coup de fil entre lui et le gouverneur démocrate. Pour autant, les vrais idéologues de la politique trumpiste n'ont pas bougé d'un cil. C'est la Fondation Héritage qui a rédigé le projet 2025 dont on peut considérer que c'est la feuille de route de Donald Trump que nous allons interroger ce soir. Voici Simon Hankinson. Nous l'avons enregistré donc en début d'après-midi. Il est en charge des questions migratoires. Bonjour Simon Hankinson.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Hankinson. Vous êtes à Washington, vous êtes chercheur principal au Centre de sécurité des frontières et de l'immigration à la Fondation Héritage, un think tank conservateur, influent dans la galaxie trumpiste. Est-ce que vous diriez que cette opération anti-immigration à Minneapolis a heurté un mur? Deux morts, une population très choquée, même un sondage qui dit que 20% des électeurs républicains trouvent que les autorités ont été trop loin. Est-ce que vous le pensez aussi?
Bon, ce que je pense, c'est que il y a une confrontation entre les forces de l'ordre, entre l'état de droit et les activistes de l'extrême gauche qui utilisent ce cas triste de Alex Pretty et avant de René Good, les deux civils activistes qui ont été tués par les forces de l'ordre. Ils utilisent tout ça pour changer, en effet, la loi américaine centrale. Parce que c'est pas une question seulement de ce que fait chaque officier pendant une manifestation. C'est la question suprême, c'est que est-ce que l'État a le droit de continuer d'expulser les migrants qui ont des ordres d'expulsion d'un juge. On a 50 États, on a plusieurs grandes villes. Et dans la plupart des États, ça se passe très, très bien parce que la police fédérale demande à la police locale de leur donner les soupçonnés. Mais dans les villes sanctuaires, soi-disant, ils laissent ces gens partir et donc c'est le travail des forces de l'ordre de les arrêter. Et là, ils sont dans les quartiers, des voisinages qui sont vraiment contre la politique du gouvernement. Mm-hmm. C'est plus difficile, ça prend beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus d'effectifs, beaucoup plus d'armes, de voitures et tout ça.
Monsieur Hankinson, l'AI, c'est l'agence fédérale qui a le plus recruté. Le recrutement était très rapide. La formation l'a été tout autant. Les hommes sont masqués, ils ont une immunité totale et leurs objectifs sont extrêmement hauts. Plus de 3000 arrestations par jour, c'est ce qu'on leur demande de faire. Comment ça pouvait bien se passer? Est-ce que l'idée n'était pas de toute façon de frapper très fort, de faire peur et de cibler les villes démocrates? Là-dessus, on peut quand même tous tomber d'accord, non?
Non, je ne crois pas qu'ils ont ciblé des villes démocrates. Ils ont ciblé les villes dans lesquelles habitent la plupart des clandestins, des immigrés illégaux. Donc c'est New York, c'est Portland, c'est Los Angeles, c'est Chicago, voilà, ils sont tous gérés par des maires et des conseils d'administration de gauche, même de l'extrême gauche. Alors, ils n'ont pas de choix, ils ne peuvent pas cibler des villes où il n'y a pas de clandestins.
Pourquoi est-ce qu'il y a une immunité autour des agents de ICE? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas, au fond, plus simple, très bien, qu'on arrête ces gens, qu'il y ait une instruction qui soit faite, peut-être un procès à l'issue de cette instruction? Alors que là, l'immunité est totale, la personne qui a tiré sur René Good n'a jamais été inquiétée, et deux de ceux qui ont tiré sur Alex Preti ont été suspendus, mais certainement pas arrêtés. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir cette immunité? Personne n'a d'immunité, théoriquement, au milieu des forces de l'ordre.
Ils n'ont pas d'immunité totale, non, pas du tout. Mais ils ont le droit d'avoir un procès qui est géré par le gouvernement fédéral, les cours fédérales et pas les cours locales. Parce que, bien sûr, les cours locales dans une ville comme Minneapolis, ils sont contre la politique du gouvernement et donc ils ont un biais contre les forces de l'ordre. Il y aura des investigations et à la fin desquelles, si un officier a pris une mauvaise décision, s'il a fait quelque chose de tort, parce qu'il faut toujours se souvenir qu'un officier est jugé pas seulement par les faits qu'on regarde sur les portables de centaines d'observateurs, ils sont jugés par les circonstances qu'eux-mêmes ont observées. Et si, par exemple, le premier officier avait peur d'être tué par la voiture de Madame Good, il y a peut-être eu raison de tirer là-dessus. Même si maintenant on voit que c'était peut-être une mauvaise décision, si à cette époque, exactement sur place, il a fait ce qu'un homme ordinaire aurait fait, il ne serait pas pris par la justice.
Mais les hommes ordinaires...
C'est compliqué, voilà. Vous avez raison.
Mais les hommes ordinaires doivent aussi répondre devant la justice. Est-ce que vous avez le sentiment, Simon Atkinson, que d'une certaine façon, quand même, l'administration s'est un peu tiré une balle dans le pied dans ces histoires-là? Les démocrates ont retrouvé une vraie vigueur politique, même ceux d'ailleurs qui admettent que la question des migrants doit être posée. Certains républicains eux-mêmes sont choqués de ce qu'ils ont vu, notamment des images incontestables. Cette séquence-là, pour les républicains, pour l'administration Trump, vous la qualifiez comment?
Vous avez raison que c'était, sur le plan de publicité, c'était une mauvaise quelques semaines pour l'administration. Ce que j'ai vu, c'est parce que j'habitais dans plusieurs pays, j'ai vu beaucoup de manifestations de toutes parts, et c'était très organisé. C'était pas que des mamans, des papas, ils sont là avec leurs enfants, protester avec les placards. Non. Ils étaient dans les visages des agents. Ils hurlaient, ils les insultaient, ils sifflaient. Ils faisaient des choses pour provoquer de la violence. Pas pour être tué, bien sûr. Personne ne veut ça. Mais pour avoir un peu de publicité, un enfant blessé, quelque chose qui avance leur cause.
Mais
de terminer application de la loi fédérale.
Mais
c'est ça qu'ils veulent. Ont gagné un peu une bataille.
C'est ça. Ils ont gagné cette bataille, mais ça veut dire qu'il ne faut pas changer d'un pouce la politique de l'administration vis-à-vis de l'immigration, par exemple.
En effet, le président a été élu pour appliquer la loi d'immigration, parce que les frontières étaient ouvertes pendant 4 ans et la majorité des Américains n'acceptent pas des frontières ouvertes. Et c'est vrai que le président Trump, il se rend compte que les circonstances ont changé, et même s'il cible toujours l'expulsion des immigrés clandestins illégaux, sur le champ, il faut peut-être changer des tactiques pour diminuer la tension, pour décontracter un peu tout le monde, qu'on peut avancer le cible.
Le mot qui revient souvent depuis le début de cette administration, d'ailleurs, c'est le mot brutalisation, en fait. Et brutalisation à l'intérieur de son pays, brutalisation du monde, dans les propos que le président Trump peut tenir, qu'on parle de l'Ukraine, qu'on parle de l'Europe, qu'on parle des Nations Unies. Est-ce que ce mot-là, brutalisation, vous parle? Est-ce que vous pensez qu'on exagère? Est-ce qu'il fallait en passer par cette brutalisation pour l'agenda final qu'est celui de cette administration?
Oui, pour moi, c'est une exagération, oui. La grande question pour nous, c'est une question de globalisation ou de droit de nationalité. Est-ce que nous, les États-Unis, comme la France, comme tous les pays du monde, est-ce que nous avons le droit de décider qui entre notre pays et qui restent dans nos pays. Est-ce que nous avons le droit de faire en sorte qu'il y a des règles et que les règles sont respectées? Et si on peut, par des manifestations, retarder ou même terminer l'action du gouvernement central, ça changera beaucoup de choses. Nous ne serons moins un état de droit géré par une administration à Washington et plus un pays divisé en 50 États comme il y a 200 ans ou plus.
Mais est-ce que c'est ce que vous souhaitez? C'est-à-dire parce que le fait que l'État fédéral prenne le moins d'importance possible, c'est ce que souhaite cette administration. C'est même écrit noir sur blanc à la Fondation Héritage. Donc, au bout du compte, est-ce que c'est ça, effectivement, que vous souhaitez? Que l'État ne représente plus rien, que chaque État, en revanche, ait un poids plus important?
Non. Ce que je veux, c'est que chaque État respecte que c'est le Congrès qui fait des lois en ce qui concerne l'immigration. Et que même si moi, personnellement, je n'aime pas les impôts qui sont très hauts à Washington, par exemple, ou dans certains États, mais je n'ai pas le droit de dire que je ne paye pas mes impôts parce que ils sont là, ils sont en noir et blanche. Et Minneapolis et Minnesota, le maire de Minneapolis et le gouverneur de l'État de Minnesota, ils doivent accepter que le gouvernement fédéral et les forces de l'ordre fédéral ont le droit et l'obligation, le devoir, d'arrêter ceux qui seront expulsés après un procès de loi.
J'imagine que vous n'ignorez pas le sentiment qu'on peut avoir vu d'Europe parfois, c'est que le virage de cette administration n'est pas seulement post-libéral, ni, comme on a pu le dire à un moment, nationaliste catholique. C'est comme ça qu'on avait un peu étiqueté, si je puis dire, J.D. Vance, le vice-président. On se dit ici que le virage, il est autoritaire, comme un régime autoritaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous réfutez intégralement?
Oui, je le réfute, parce que il y a des comparaisons entre les États-Unis et l'Iran. Et voilà, en Iran, si on proteste, on manifeste contre le gouvernement, on a une bonne chance d'être tué. Ils ont tué des milliers, je ne sais pas le nombre, le chiffre, mais 30 000.
Oui. La comparaison est quand même un peu large.
Combien? Il y a deux. Ils n'étaient pas ciblés pour meurtre. Ils étaient tués dans un champ de manifestation.
Non, mais personne
c'était,
ne compare les États-Unis.
C'était, je crois, un accident, une mauvaise décision.
Mais monsieur Hankinson, personne ne compare les États-Unis à l'Iran, et surtout pas l'Iran d'aujourd'hui.
Le chef de la partie démocrate, Ken Martin, il a dit exactement ça. Il a fait cette comparaison. Vous pouvez le voir sur l'Internet en anglais. Il a comparé les États-Unis, l'administration de Trump, à l'administration d'Iran. Et même si on critique Trump, on pense qu'il est un peu dur. Je ne partage pas cette opinion, mais on peut le comparer à Joe Biden et dire que oui, il est plus dur en ce qui concerne les expulsions. Mais il n'y a pas de question que nous travaillons dans un cadre de démocratie et que nos officiers, ils font leur devoir, ils ne font pas n'importe quoi.
Comment vous expliquez alors que les sondages soient aussi bas pour Donald Trump en ce moment?
C'est souvent le cas pour un président. C'est son deuxième terme à peu près, parce qu'il a eu son premier il y a 8 ans. C'est souvent le cas qu'on perd popularité pendant le mandat, parce qu'on fait beaucoup de promesses pour être élu. Et après, si vous voyez les chiffres de Joe Biden, de Barack Obama, vous voyez la même chose. Mais c'est vrai que cette question d'immigration et ce qu'on voit sur la télé, sur le média, a peut-être baissé un tout petit peu sa popularité en ce question.
Vous êtes familier avec ce terme qui a passé l'Atlantique aussi, qui est le terme TACO, Trump Always Chickens Out. L'idée qu'il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et puis un retour à la case départ à chaque fois. Sur les droits de douane, ça a été le cas. Sur le Groenland, évidemment, ça a été le cas. Sur l'Iran, pour l'instant, on n'en sait rien. Sur le Doge, ça a été le cas aussi. Ça a été un tollé. Les choses sont un peu revenues en arrière. Et là, sur l'immigration, on voit bien qu'il essaye de calmer le jeu. C'est difficile de ne pas avoir une conduite erratique quand même du pouvoir. Est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment quand même de sursaut perpétuel dans cette administration?
Oui, de sursaut, je ne sais pas si c'est le mot que j'utilise, mais c'est vrai qu'on a vu dans un an plus d'action que dans 4 ans normal, et que oui, la politique a changé beaucoup de fois. Pas sur l'immigration, je crois que là, ils étaient très clairs. Il a ordonné des expulsions de masse, parce qu'on a eu des admissions de masse pendant 4 ans. Moi, je ne suis pas expert sur les tarifs, l'économie, ça, ce n'est pas mon domaine.
Est-ce que nous sommes encore vos alliés, vos amis, Monsieur Hankinson?
Nous sommes un pays assez compliqué et très divisé. Pour moi, personnellement, bon, j'adore la France. J'ai vécu là 5 ans en plus. Et je crois que pays par pays, nous sommes très amicables. Mais le concept de l'Europe, de centralisation, ça, c'est pas tellement notre truc.
Et ça, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Samuel Hankinson, d'avoir été avec nous.
Merci. Au revoir.
La suite, c'est le monde à l'endroit. Et c'est vous, Louise Baudet.
Il y a un Made in China, il y a un Buy American. Y aura-t-il bientôt un Made in Europe? La France en rêve, mais c'est pas fait.
Allez, juste après ça. Sardine de Power, c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Louise, pourquoi on n'est pas prêt de voir des étiquettes Made in Europe sur les produits européens?
Eh oui, il y a le tout-puissant Made in China, le plus récent Buy American. Alors, pourquoi pas nous, les Européens? Pourquoi ne pas favoriser ce qui est produit chez nous? L'idée n'est pas nouvelle, la France la défend depuis des décennies et ce Made in Europe se retrouve au cœur d'une tribune co-signée par 1 millier de grands patrons à l'initiative du commissaire européen français à la politique industrielle, Stéphane Séjourné. Démarche pas vraiment conforme aux us et coutumes de la Commission de Bruxelles, qui travaille d'habitude à l'abri des regards. Mais le chantier prend du retard. La loi d'accélération industrielle qui porte cette préférence européenne n'est toujours pas présentée. Or, l'Europe n'a plus le choix, disent les signataires, face aux droits de douane, aux subventions massives, aux restrictions à l'exportation imposées par la Chine et les États-Unis. L'inaction n'est plus une option.
Alors pourquoi ça coince?
D'abord parce que le protectionnisme n'est pas du tout dans l'ADN européen. La croyance dans un marché qui se régulerait lui-même, la mondialisation vue comme la matrice de la prospérité du vieux continent. Bref, le libre-échangisme des origines leste le Made in Europe d'un poids idéologique non négligeable. Alors c'est vrai, le Covid, la guerre en Ukraine, l'hyper-protectionnisme chinois et américain sont venus prouver que la souveraineté est un impératif parfois supérieur aux lois du marché dans des secteurs stratégiques comme l'acier pour fabriquer des canons, la chimie pour fabriquer des vaccins, mais aussi les technologies de la transition énergétique ou l'automobile. Ce sont d'ailleurs ces secteurs qui sont concernés par le fabriqué en Europe. Mais voilà, risquer de braquer ses partenaires commerciaux, gêner la fluidité des échanges, eh bien ça embête fortement les petits pays exportateurs comme la République tchèque, le Portugal ou l'Irlande. Et puis ça peut faire peur à ceux qui ne veulent pas se fâcher trop fort avec l'Amérique trumpiste. Il y en a encore à la Commission de Bruxelles comme à la table des 27.
L'autre problème, Louise, c'est que la préférence européenne, ça coûte cher.
Eh bien oui, juste pour comparer, l'an dernier, le coût du travail horaire moyen en France était de 38 euros contre moins de 3 euros en Inde. C'est l'un des facteurs de la désindustrialisation depuis les années 80. Et selon certaines estimations, forcer les entreprises européennes à acheter européen pourrait leur coûter plus de 10 milliards d'euros par an. Alors, les promoteurs du Made in Europe font remarquer qu'il ne concerne que les secteurs stratégiques et uniquement quand de l'argent public est engagé à travers des marchés publics ou des prêts garantis par l'État. Tout le reste demeure dans le domaine du libre-échange, conformément aux accords commerciaux signés par l'Union européenne.
Et justement, ces accords de libre-échange, certains veulent les intégrer au Made in Europe.
Et oui, l'idée peut paraître baroque, mais le périmètre géographique du fabriqué en Europe fait effectivement l'objet de discussions intenses à Bruxelles. Certains voudraient intégrer au label les productions de pays partenaires. Du Made in Vietnam, Maroc et bientôt Inde se retrouveraient estampillés vieux continent. Alors ça semble peu probable, mais ça montre à quel point le sujet est passionnel. D'autant que le Made in Europe est porté par la France et que ça fait office de repoussoir. La prudence de certains États membres étant proportionnelle à l'enthousiasme hexagonal pour la préférence européenne.
Louise Baudet, merci beaucoup. À demain, le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour en Birmanie ce soir, mais en passant par la Thaïlande. Je vais vous ramener d'abord 5 ans en arrière, le 1er février 2021, les militaires reprenaient le pouvoir en Birmanie dans un coup d'État et signaient la fin d'une courte transition démocratique. Depuis, des centaines de milliers de Birmans ont fui la guerre, les persécutions politiques et l'instabilité économique. Beaucoup s'installent en Thaïlande, le pays voisin, et c'est là que nous allons ce soir et demain d'ailleurs. Dans la province frontalière de Tak, on estime à plus de 64 000 les enfants en âge d'étudier, mais seulement un tiers d'entre eux trouvent une place dans des écoles thaïlandaises. Les autres, quand ils ne sont pas dans des camps de réfugiés, eh bien vont dans des écoles informelles, quasi clandestines, dans une sorte de zone grise. Le reste, c'est Juliette Chénion qui raconte.
Au milieu des champs de canne à sucre, dans les environs de Mesot, un brouhaha s'échappe d'un hangar. Il y a ici 90 enfants environ, âgés de 3 à 17 ans. Ils viennent tous de Birmanie. Une petite fille de 8 ans, en uniforme, assise à son bureau, noircit les lignes de son cahier.
J'écris l'alphabet.
C'est un alphabet dans lequel il y a 33 consonnes et 12 voyelles. Et visuellement, c'est un ensemble de symboles qui ont des formes arrondies ou circulaires.
Dans les salles, des bureaux, un tableau, quelques livres jaunis, le sol est en béton, sur les murs défraîchis, des affichettes colorées avec les jours de la semaine. Mais attention, nous ne sommes pas dans une école, comme l'explique tout la directrice.
Les autorités thaïlandaises nous permettent d'avoir un learning center, un centre éducatif. Mais on ne peut pas dire que ce soit une école.
Ces centres éducatifs opèrent en effet dans une zone grise, tolérée mais pas reconnue comme véritable école en Thaïlande. Le centre de Tu existe depuis une quinzaine d'années.
On s'occupe surtout des migrants sans papiers. On suit le programme scolaire birman. Les élèves apprennent le birman, l'anglais et un peu de thaï.
Dans certains centres, les élèves s'entassent à 50 par classe. Parfois, ce sont les lycéens qui font cours aux plus petits. Les professeurs, pour la plupart migrants, eux aussi, n'ont pas toujours le permis de travail officiel ou de diplôme reconnu. Ces centres sont donc une alternative précaire à l'école publique thaïlandaise, légalement ouverte à tous, mais en pratique difficile d'accès. Tetezo a 15 ans.
This is my first year in this school.
C'est ma première année ici. J'ai déménagé de Rangoon avec ma mère. À cause de la dictature.
Pourquoi tu ne vas pas à l'école thaï ?
Car je ne parle pas thaï et je me sens mieux avec des amis birmans.
L'adolescente rêve de devenir scientifique, mais les diplômes des centres éducatifs sont rarement valables auprès des universités, comme le regrette Tekang Nia, un autre élève.
On est en Thaïlande. Donc les élèves de l'école thaï ont forcément plus d'opportunités que nous.
Certains parents préfèrent ces centres éducatifs pour que leurs enfants apprennent le birman. Beaucoup ignorent aussi comment s'inscrire à l'école thaïlandaise. Ils n'ont pas les papiers nécessaires ou manquent parfois de moyens pour payer le transport, les fournitures, tout la directrice.
Après 3 ou 6 ans, c'est plus dur de les inscrire à cause du manque de maîtrise de la langue, des lacunes et des quotas. Beaucoup d'écoles thaï n'ont pas le budget pour accueillir plus d'élèves.
Depuis le coup d'État en Birmanie, il y a 5 ans, le nombre d'élèves dans les centres éducatifs de Mesot a doublé.
Oui, on a plus d'élèves et donc plus de problèmes et de défis.
Le décrochage scolaire, par exemple, a été multiplié par 6 en 2 ans dans les centres éducatifs.
Beaucoup de familles bougent au gré des opportunités économiques, donc les élèves ne peuvent pas suivre une scolarité normale. Maintenant, on a aussi les enfants traumatisés par le conflit. On essaie de les prendre en charge au mieux.
Et avec les coupes d'aide internationale au développement décidées par les États-Unis et plusieurs autres pays, la directrice craint de manquer de moyens à l'avenir.
Ce qu'on fait ici n'est pas tout à fait légal, donc on est toujours dans l'incertitude. On n'a par exemple pas le droit d'acheter un terrain, donc c'est au bon vouloir du propriétaire. On a besoin d'aide du gouvernement et de dons.
Autour de Mesot, de nombreux centres éducatifs ont été fondés en urgence après le coup d'État de 2021 en Birmanie. Ils déménagent régulièrement par peur d'être démantelés par les autorités thaïlandaises.
Juliette Chénion pour le reportage. Juliette, merci beaucoup. À demain, toujours à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. La suite ce soir, c'est ce que vous avez été chercher sous les radars, Virginie Pironon.
On parlera d'un minerai exploité dans le sang, le coltan, en RDC.
Et la BO du monde, comme chaque lundi, avec vous Cyril Sauvageau.
La résilience de la scène métal en Ukraine après bientôt 4 ans de guerre.
Allez, là tout de suite, les amis, le tour de la planète commence à peine. Il passe par la Norvège avec Anne Brun, tout en douceur. Cette reprise d'un des plus grands classiques des balades américaine Blue Moon, écrit en 1934, et merci à Djoubaka qui s'occupe de programmer Un jour dans le monde. Without a love of my own. Ben c'est bien agréable, hein, à cette heure-ci, après tout ce qu'on vient d'entendre, d'écouter Anne Brun, la Norvégienne, et sa reprise de Blue Moon. Elle passe sous les radars, elle ne remonte jamais si elle n'a pas les mains pleines. Voici Virginie Pironon.
Il y a eu de la pluie, l'éboulement s'en est suivi et a emporté les gens. Certains ont été engloutis, d'autres sont morts dans les puits.
Voici un ouvrier du site minier de Roubaïa, c'est en République démocratique du Congo, Virginie, où un glissement de terrain fait craindre un bilan d'au moins 200 morts.
Après des pluies diluviennes, c'est tout un pan de colline qui s'est détaché mercredi, engloutissant des dizaines de mineurs artisanaux. L'endroit situé à 70 km à l'ouest de la ville de Goma est contrôlé depuis 2024 par le groupe armé antigouvernemental M23 qui en tire d'importants revenus. Et pour cause, Roubaïa, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres, c'est 15 à 30% de la production mondiale de coltan, 60% des réserves. Le coltan dont on extrait le tantale, Fabienne, indispensable au secteur de l'électronique qu'on retrouve jusque dans nos smartphones. Minerai critique qui alimente depuis des années la guerre à l'est de la RDC, exploité dans des conditions effroyables, sans mesure de sécurité, parfois même en faisant travailler des enfants. La taxation des activités par le M23 lui rapporte plusieurs centaines de milliers de dollars par mois. La RDC appelle la communauté internationale à prendre pleinement la mesure de ce drame, conséquence selon elle d'une occupation armée et d'un système de pillage organisé par le groupe rebelle et le Rwanda.
En République tchèque, des dizaines de milliers de personnes rassemblées en soutien au président Peter Pavel.
Près de 90 000 personnes hier dans les rues de Prague. Le président Peter Pavel est engagé dans un bras de fer sans précédent avec le Premier ministre, le milliardaire autoproclamé trumpiste Andrei Babich, allié à l'extrême droite. Son gouvernement essaie de faire chanter Peter Pavel. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Peter Masinka, chef d'un parti de la coalition, a menacé le président de représailles s'il ne nomme pas un de ses proches à l'environnement. Le copain en question, Philippe Tourek, ex-député européen, fait l'objet d'une enquête pour violence conjugale, a écrit sur les réseaux sociaux des messages misogynes, racistes, et la police a enquêté sur des soupçons de possession d'objets nazis. C'est beaucoup hein, pour un seul homme. Peter Pavel refuse toujours de le nommer. Hier, les manifestants ont voulu démontrer au président qu'il n'est pas seul. Une pétition de soutien a déjà recueilli plus de 600 000 signatures. Une nouvelle manifestation sera organisée si cette pétition passe le million.
Et puis on termine, Virginie, avec l'histoire d'un petit cheval triste.
Oui, ça va vous plaire, Fabienne. Un cheval rouge en peluche, censé célébrer en Chine l'année du cheval. C'est pour bientôt, le 17 février. Sauf que la petite bête, d'une hauteur de 20 cm, vendue 3 euros environ, a un défaut de fabrication. Sa bouche est cousue à l'envers. Je ne vous fais pas de dessin. Il fait la gueule, ce cheval. Mais ce qui est fou, c'est que ça fait son succès. C'est la ruée dans les magasins, 15 000 peluches vendues par jour. Sur les réseaux sociaux, les internautes chinois se marrent. Une publicité le présente comme un petit compagnon qui comprend tout de votre fatigue et de vos rêves. Pour les observateurs, il s'agit d'une incarnation de l'humeur de la nation, avec des Chinois en ce moment moins optimistes. La créatrice de la peluche, citée dans le quotidien du peuple, s'interroge. On n'arrive pas, dit-elle, à savoir précisément qui a fait cette erreur du sourire à l'envers. Du coup, tout le monde aura une prime. Souriez.
Ah bah écoutez, formidable. En tout cas, très bel acte manqué, Virginie Pironon. Merci beaucoup. À demain, le lundi. C'est Cyril Sauvageau qui écoute la musique que fait la planète en tournant.
France Inter. Le 18-20.
La BO du monde, Cyril, ce soir est en Ukraine après bientôt 4 ans de guerre. Comment la scène musicale parvient-elle à survivre? Un genre en particulier continue de prospérer et de s'exporter même partout dans le monde, c'est le métal ukrainien.
Et c'est pas tous les jours qu'un groupe ukrainien se produit en tête d'affiche à l'Olympia. La venue ce soir à Paris du groupe métal Ginger est donc un petit événement dans le monde des musiques extrêmes. La preuve que l'Ukraine reste une place forte du métal malgré la guerre. Ginger en sont les meilleurs ambassadeurs, avec à leur tête une chanteuse bardée de tatouages, Tatiana Shmailouk.
Down.
Et voilà, ça c'est la chanteuse Tatiana Shmailouk qui passe comme ça d'un seul coup du chant au hurlement le plus guttural. Derrière elle, trois musiciens, un groupe parfaitement rodé qui totalise 20 ans de carrière depuis ses débuts à Donetsk dans le Donbass. Après 4 ans de guerre, Ginger sont toujours là et n'ont jamais aussi bien marché. Leur nouvel album est sorti il y a peu. Sur la pochette éclaboussée de sang, des douilles de fusil, c'est dire si la guerre et son imagerie imprègnent toute leur musique.
Ça, c'est Ginger en concert, c'était au Hellfest.
Hellfest, oui.
Pour l'Ukraine, Cyril, le succès d'un groupe comme celui-ci, c'est l'occasion de porter la parole de l'Ukraine à l'étranger.
Ben oui, c'est une forme de soft power dans la guerre informationnelle avec la Russie. Les autorités de Kiev l'ont bien compris, raison pour laquelle elles ont décidé d'accorder des autorisations spéciales à certains musiciens comme Ginger pour qu'ils puissent quitter le pays et ne pas être envoyés au front. C'est le cas aussi de cet autre groupe de heavy metal, Stone Jesus. Depuis 2022, le chanteur Igor Sidorenko et ses deux acolytes ont pu poursuivre leur activité, mais jouer en Ukraine est devenu quasi impossible. Stone Jesus ont donc préféré s'exiler et enregistrer en Pologne. Ils profitent de leur tournée en Europe aux États-Unis pour récolter des fonds pour les civils.
Mais quand même, Cyril, tous les musiciens n'ont pas la chance de pouvoir circuler librement. La scène ukrainienne a payé cher ces 4 années de guerre.
Et beaucoup n'ont pas pu faire autrement que de jeter l'éponge en attendant des jours meilleurs. Je pense par exemple à cet excellent groupe venu d'Odessa, White Ward. En 2022, il semblait bien parti pour décoller à l'international. Mais la guerre est passée par là. Et puis il y a tous ceux qui se sont retrouvés enrôlés dans l'armée. Certains l'ont payé de leur vie, comme Mykola Sostin, un des pionniers du métal en Ukraine, tombé au front en 2024. D'autres s'efforcent de continuer à jouer pendant leur temps libre ou leur permission. C'est le cas de Dmytro Kouchnir et son groupe Armata. Notre reporter Agathe Mahué l'a rencontré l'an passé à Kiev. Dmytro lui racontait comment son expérience de la guerre nourrit sa musique depuis qu'il a rejoint la 4e brigade, célébrée dans l'un de ses derniers titres.
C'est une chanson qui est dédiée, consacrée à la brigade en fait. La chanson va s'appeler « Je suis l'arme ». Ça vient d'une phrase qu'a sorti mon commandant dans une situation où il demandait, tu vois, il rentrait dans un truc, il dit « Vous avez les armes sur vous » et il dit « Je suis l'arme moi-même ». Je suis l'arme, je suis l'épée, je suis le couteau, je suis la balle, je suis l'arme. Donc en fait, il y a tout dedans, quoi.
Depuis cette interview, Dmytro est toujours dans l'armée, engagé avec sa brigade sur des tâches logistiques. À défaut d'entrevoir une fin au conflit, il continue la musique avec Armata, le métal toujours chevillé au corps.
C'est sûr que ça nous change de la balade norvégienne qu'on a écoutée tout à l'heure.
Hein. C'est deux salles, deux ambiances.
Ah, comme vous dites. Ah, oui.